Vous écoutez, on lit pour vous.
Ce qu'il faut pour survivre. Un texte de Rima El-Khoury, paru le 22 juin 2024 dans la presse. Survivant de l'Holocauste, le Montréalais Maxwell Smart n'a jamais pensé que son histoire ferait un jour l'objet d'un livre et d'un film dont il est le héros. « Je ne suis pas un héros », dit humblement l'artiste de 94 ans qui me reçoit chez lui dans une maison aux allures de musée. Pas un héros? Permettez-moi d'être en désaccord, cher Maxwell. Né dans une famille juive à Prague, Maxwell Smart, dont le nom à la naissance était Osiak Fromm, avait 9 ans quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, sonnant le glas d'une enfance heureuse. Il avait 11 ans quand sa famille, qui avait déménagé à Buczak, petite ville d'Ukraine faisant partie de la Pologne à l'époque, a été pourchassée par les nazis. Après avoir échappé de justesse à la déportation, il a réussi à survivre en se cachant dans la forêt pendant 2 ans. Avec un jeune compagnon d'infortune rencontré par hasard, il y a sauvé un bébé. Si Maxwell Smart a survécu, c'est d'abord grâce à sa mère qui lui avait ordonné de fuir, me raconte-t-il. Je me suis accroché à une seule chose. J'avais promis à ma mère que j'allais vivre. Elle m'avait dit « Tu dois vivre ». Et j'ai dit « Je vais vivre pour toi ». Pendant plus de 7 décennies, Maxwell Smart, qui a perdu 62 membres de sa famille dans l'Holocauste, et a trouvé refuge à Montréal en 1948, n'a jamais parlé de son histoire. Pourquoi? Parce que c'est une histoire trop douloureuse qu'il tentait d'oublier. Quand on souffre, on ne veut pas se rappeler à quel point on avait faim, on avait froid, on gelait, trempé jusqu'aux os parce que l'on n'avait pas de toit et vivait dehors comme un animal. En réalité, Rima, on ne veut pas retourner là. S'il n'en parlait pas, c'est aussi qu'il avait le sentiment que personne n'avait vraiment envie de l'écouter, encore moins de le croire. Je peinais moi-même à me souvenir de ma vie, alors pourquoi quelqu'un me croirait-il? Être un survivant de l'Holocauste n'était pas un honneur quand je suis arrivé au Canada. C'est sa femme, Tina Rousseau, qui l'a encouragé à raconter son incroyable histoire. Elle me disait « Tu es passé à travers tout ça et tu ne veux pas le raconter aux gens ?» J'ai réalisé qu'elle avait raison. Je me suis ouvert et j'ai écrit un livre. Ça m'a pris 10 ans à l'écrire avec son aide. C'était très difficile, se souvient Maxwell Smart. Très difficile, mais absolument nécessaire, se dit-il aujourd'hui, alors que les rescapés de l'Holocauste toujours vivants sont de moins en moins nombreux et que l'on observe une montée de l'antisémitisme. Best-seller au Canada anglais, The Boy in the Woods, HarperCollins, qui vient d'être adapté au cinéma par la réalisatrice Rebecca Snow, raconte à la fois la face la plus sombre de l'humanité, la haine, le racisme, l'antisémitisme et leurs conséquences terribles dans la vie d'enfant, et son côté le plus lumineux, sans lequel Maxwell Smart n'aurait pas pu survivre. Le courage de ceux qui, au péril de leur vie, lui ont tendu la main. J'aimerais que les gens se rappellent l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. L'inhumanité des hommes, spécialement à l'égard des enfants. J'aimerais sensibiliser les enfants en particulier, parce que les enfants, c'est notre avenir. Ce sont nos futurs dirigeants, médecins, avocats, écrivains. Ils seront au pouvoir un jour, et je veux que mon histoire ne soit jamais oubliée. Vous écoutez « Ce qu'il faut pour survivre », un texte de Rima El-Khoury, paru le 22 juin 2024 dans la presse. N'oublie jamais la bonté. Maxwell Smart aimerait que l'on n'oublie jamais le courage et la bienveillance de ceux à qui il doit sa vie. Il y a des gens qui sont bons, qui m'ont aidé, dit-il, avec une infinie reconnaissance dans le regard. Parmi eux, Jasko Rodnicki, un fermier polonais chrétien qui a risqué sa vie et celle de sa famille pour sauver celle de l'enfant juif. Même s'il était lui-même très pauvre, Jasko partageait avec lui le peu qu'il avait afin qu'il ne meure pas de faim en forêt. C'était un juste parmi les nations, bien que Maxwell, à son grand regret, n'ait pas réussi à le faire reconnaître officiellement comme tel, étant l'unique témoin de sa bravoure. Si je n'avais pas eu Jasko, je ne serais pas en vie, affirme Maxwell Smart. Je pouvais gérer ma solitude, mais on ne peut pas gérer la faim. C'est impossible. Je ne pouvais pas aller dans un magasin car on m'aurait tué. Je ne pouvais être vu nulle part. Alors comment aurais-je pu me nourrir? Avant que Maxwell soit forcé de trouver refuge dans la forêt, le fermier avait accepté de l'accueillir chez lui en cachant sa véritable identité. Lorsque des policiers ont frappé à sa porte, le soupçonnant de cacher des Juifs et le menaçant de mort, Jasko a tout nié. Sentant qu'il devenait trop dangereux que son secret soit éventé, le fermier a demandé à Maxwell de se trouver un abri dans les bois et de ne plus s'approcher de sa maison le jour. Avant de le laisser partir, il lui a appris des techniques de survie. En catimini, il a continué à lui offrir du pain et du lait. Maxwell Smart croit qu'il n'aurait jamais pu survivre non plus sans Janek, un enfant juif dont les parents avaient été tués qu'il a rencontré un jour dans la forêt. Cela faisait deux nuits qu'il marchait seul. Il était affamé et tremblait de peur. Maxwell a partagé avec lui une de ces précieuses tranches de pain qu'il pouvait faire durer une semaine. Il m'a dit qu'il avait 9 ans, mais il m'a semblé plus jeune encore. Il m'a dit « Je suis maintenant seul, mais je t'ai trouvé. » La rencontre avec Janek a été salvatrice pour Maxwell, qui était en train de céder à la colère et au désespoir, seul dans les bois, réduit à survivre comme un animal traqué. Il envisageait d'aller au village, ce qui équivalait à se rendre. Quiconque m'aurait vu avec mon allure aurait appelé la police et je me serais fait prendre. Et une fois que l'on venait vous chercher, il n'y avait pas de retour possible. Et si je n'avais pas eu Janek? C'est ce que j'aurais fait. Mais Janek a pris soin de moi. Sa présence m'a apaisé. J'avais quelqu'un à qui parler, dit l'homme, le regard ému. Maxwell a enseigné à Janek les leçons de survie apprises en forêt. Il lui a montré comment distinguer les champignons comestibles des espèces toxiques. Ils se sont construits ensemble un nouvel abri, mais le plus important, dit-il, c'est surtout qu'ils ont pu, ensemble, redevenir des enfants. Avec tous les problèmes que nous avions, se souvient Maxwell Smart, nous aimions jouer. On jouait dans l'eau. On riait ensemble, nous étions des enfants. On n'avait rien à voir avec la guerre. Ils n'avaient rien à voir avec la guerre, mais ils en subissaient la cruauté. Un jour d'hiver, à l'aube, Maxwell et Janek ont été réveillés par des cris, des pleurs et des coups de feu. Près de la rivière, une scène d'horreur les attendait. Un massacre avait eu lieu. Des corps étaient dispersés. Sous eux, la neige était devenue rouge sang. Maxwell a remarqué un corps qui bougeait de l'autre côté de la rivière. C'était un bébé dans les bras gelés de sa mère qui avait vraisemblablement été tué d'une balle dans le dos alors qu'elle tentait de fuir. Ensemble, Maxwell et Janek ont sauvé le bébé et ont pu le confier à sa tante qui était cachée dans les bois. Mais Janek n'a pas survécu à l'opération de sauvetage. L'abri qu'ils avaient construit dans les bois est devenu sa tombe. Et Maxwell est devenu inconsolable. À la fin de la guerre, lorsque Maxwell a pu sortir de la clandestinité pour enfin vivre sans peur, il n'avait pas le cœur à la fête. Son ami était mort en sauvant un bébé inconnu, opération dans laquelle il l'avait lui-même entraîné. Janek était venu à moi pour m'aider à survivre et il est mort. Je me sentais si coupable d'avoir tué mon meilleur ami pour quelqu'un dont je ne savais absolument rien. Pendant 70 ans, n'ayant aucune nouvelle de cet enfant qu'ils avaient sauvé, Maxwell doutait même qu'elle ait survécu à la guerre, jusqu'à ce que, en 2019, dans la foulée du documentaire « Cheating Hitler » auquel il a participé, il la retrouve. Cela a atténué mon sentiment de culpabilité, dit-il. Pas complètement, mais cela a fait de Janek un héros dans cette aventure. Je suis heureux pour cette fille. Elle a pu se marier, fonder une famille, elle a des petits-enfants. Il reste malgré tout en lui une douleur qui n'a jamais disparu. Janek était mon seul ami. J'étais d'autant plus attaché à lui que je n'avais plus personne. Après la libération, il a demandé à Jasko de le ramener à la maison. Je pensais que ma mère m'attendait et qu'on allait récompenser Jasko pour ce qu'il avait fait pour moi, mais personne n'avait pu l'attendre. Sa mère l'avait sommé de fuir parce qu'elle savait qu'elle allait être tuée. Le seul membre de sa famille qu'il a pu retrouver 20 ans plus tard est sa tante Erna. Elle lui a remis un candélabre qui appartenait à sa mère et lui avait été offert par son grand-père lors de son mariage. Il trône maintenant dans son salon à Montréal. C'est le seul objet qui le lie à la maison de son enfance. Quand je suis triste, je pose mes mains dessus et ça m'apaise. Je revois ma mère qui le polissait toujours avec soin. Je sens qu'elle est là, avec moi. Vous écoutez « Ce qu'il faut pour survivre », un texte de Rima El-Khoury, paru le 22 juin 2024 dans la presse. Peindre un monde sans haine. Maxwell Smart est arrivé à Montréal en 1948 dans le cadre d'un programme visant à réinstaller au Canada 1000 orphelins de guerre juifs. On devait me placer, mais personne ne voulait d'un orphelin comme moi. J'avais déjà 17 ans, je n'étais plus un enfant. L'enfant qui rêvait d'être un artiste a commencé à travailler comme manutentionnaire dans un entrepôt du boulevard Saint-Laurent. J'avais un tuteur. Quand il a vu que je gagnais 18 $ par semaine, on a déterminé que j'étais autosuffisant et on a refusé de me soutenir davantage. J'étais laissé à moi-même. Travaillant, le jeune rescapé était déterminé à reconstruire sa vie, mais il avait l'impression de partir de zéro. Comment peut-on créer quelque chose à partir de rien? C'était un très grand défi. Les premiers temps furent très difficiles. Par où devais-je commencer? Je ne parlais pas la langue, je n'avais pas d'argent, nulle part où rester. Et c'était plus difficile encore que lorsque j'étais dans le camp de réfugiés en Europe où j'étais logé et nourri. Là, je devais me débrouiller par moi-même. Il a loué une chambre, avenue du Parc, dans le Mile End, qui était à l'époque un quartier ouvrier extrêmement pauvre. Il cherchait par tous les moyens à améliorer son sort. « J'ai dû avoir 50 jobs différents », évoque Maxwell Smart. « Et toutes les possibilités d'aller à l'école et de suivre des cours de langue gratuitement, je les ai saisies. Après avoir travaillé toute la journée, je m'échinais jusqu'à minuit pour apprendre la langue, être capable de communiquer et de lire le journal. » Petit à petit, Maxwell s'est reconstruit. Il s'est marié et a fondé une famille. Il est devenu un homme d'affaires prospère. Il a aussi suivi des cours de peinture. Il a ouvert 2 galeries d'art, renouant avec son rêve d'enfance. Il continue de peindre tous les jours dans l'atelier d'été aménagé dans son jardin. Parmi ses peintres préférés et sources d'inspiration, on trouve Jean-Paul Riopel et Paul-Émile Bordua. « Je peignais déjà dans la forêt. sans peinture, sans pinceau, sans canevas. Je peignais dans ma tête, et ça m'a gardé vivant. J'étais déconnecté de la réalité. Je vivais dans un monde de rêve, de liberté. Je regardais le ciel et c'était magnifique. En racontant son histoire, il espère contribuer à ce que ce monde libre et sans haine qu'il a toujours peint dans sa tête ne soit pas qu'imaginaire. C'était ce qu'il faut pour survivre, un texte de Rima El-Khoury, paru le 22 juin 2024 dans La Presse.
Les rêves brisés du quartier chinois. Un texte de Jean Bourbeau, paru le 9 juin 2024 dans Urbania. Chronique d'une crise montréalaise. À l'angle de Côté et Vigée, une femme danse sur elle-même, les yeux clos, un sein découvert. Une autre aide son ami à allumer son hit, tandis qu'une troisième personne, un homme tenant une peluche sous le bras, fixe sa pipe en verre, le regard on ne sait où. Une scène devenue banale dans ce quartier où on ne se retourne plus au cri. Récemment, mon collègue évoquait la cohabitation de plus en plus difficile avec la population vulnérable du centre-ville. Violence, overdose, menace. Au rythme où les choses se dégradent, un fossé grandissant plonge le centre-ville dans un climat de résignation et de peur. Aucun signe d'amélioration ne semble se profiler à l'horizon. Pire encore, le sentiment général est que la situation ne peut qu'empirer. Cette situation complexe soulève de nombreuses questions et suscite des inquiétudes légitimes. J'ai passé une journée dans le quartier chinois pour découvrir comment la trivialité du quotidien peut parfois révéler une réalité profondément enracinée. 8 heures. Les premiers rayons du soleil caressent le pavé fraîchement nettoyé. Le squeegee glisse sur les dernières vitrines sans affiche allouée, tandis que de vieilles mains dispersent de la nourriture pour les pigeons. Le Chinatown émerge de son sommeil, même s'il ne s'est jamais vraiment endormi. À quelques pas de là, la discrète ruelle Brady dissimule un trafic qui bat son plein. Une poignée de personnes s'y rassemblent déjà, certaines vacillant dans un état de semi-conscience sous l'emprise du fentanyl, leur corps affaissé, captif du « nodding out ». En marchant, tous les regards éveillés se tournent vers moi, me scrutent. Dans cette ruelle, la méfiance règne. Le quartier chinois occupe une position névralgique au cœur de Ville-Marie, entre l'allée du crack et la mission Old Brewery. Avec une accumulation de bâtiments laissés à l'abandon, cette zone attire une population prise au piège à l'intersection de la crise du logement, des troubles de santé mentale et l'épidémie d'opioïdes. C'est ici que cette réalité apparaît de la manière la plus criante. Un peu partout, on observe des silhouettes se glisser dans les fissures du paysage, d'autres en surgir avec leurs biens sur le dos, cherchant refuge dans les brèches du regard. Sous les escaliers, un archipel de la misère. 9h30. Place Sun Yat-sen, le SPVM installe une tente de recrutement fournissant des dépliants et des crayons officiels. Mais l'initiative ne se limite pas à l'embauche. Elle vise à tisser des liens avec une population souvent hésitante à solliciter leur aide. Un policier parlant mandarin est présent pour favoriser la communication. Midi. Peu à peu, le quartier retrouve son affluence. Ses trottoirs se remplissent d'une procession d'aînés asiatiques avançant paisiblement, de touristes et d'adolescents savourant kogos et bubble teas. L'atmosphère rappelle celle, détendue, d'un food court en plein air. Après une année de préparation, le CRAR, Centre de recherche action sur les relations raciales, lance l'opération Dragon d'or. Cette initiative citoyenne vise à signaler les incidents en utilisant un code QR affiché à divers endroits du quartier. Sa représentante, Véronica Galavis, explique que l'objectif est de donner une voix à la population locale victime d'insécurité et de combler le sentiment d'abandon. Le système garantit l'anonymat, mais le formulaire demande quelques informations pour mieux cerner qui sont les résidents les plus touchés. J'en profite pour m'entretenir avec la commandante du poste de quartier 21, Christina Balog, au sujet de la dégradation du sentiment de sécurité du quartier. Il y a beaucoup de boulot à faire, nous en sommes conscients. La vente de stupéfiants se concentre en points chauds sur lesquels nous travaillons depuis plusieurs semaines. Nous effectuons des arrestations, mais dès qu'un vendeur est retiré, un autre prend sa place. La policière garde toutefois espoir malgré une situation qui tarde à s'améliorer. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'EMIS, équipe mobile de médiation et d'intervention sociale, pour aider ceux qui en ont besoin. Mais un des principaux obstacles est la désaffiliation. Les gens refusent tout service, toute aide des intervenants. Un autre défi dans le quartier est de créer un lien de confiance avec la communauté résidentielle pour les encourager à venir nous parler. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Avant de se quitter, elle pose sa main sur mon avant-bras et murmure « J'aimerais tellement avoir une baguette magique pour faire une différence. » Juste devant nous, une femme dont les pantalons sont si grands qu'elle doit constamment les tenir en place avance sans chaussures, tandis qu'un jeune en manteau d'hiver, une fin de joint à la bouche, la rejoint vers nul ne sait où. Sur Saint-Laurent, une voiture fait crisser ses pneus pour les éviter. Ici, deux mondes parallèles coexistent sans se répondre. Vous écoutez « Les rêves brisés du quartier chinois », un texte de Jean Bourbeau, paru le 9 juin 2024 dans Urbania. 14 heures. Un homme aux yeux bleus perçants débouche sa pipe dans la mélopée d'un violonneux de rue. Il me dit que son dealer ne répondait pas, alors il est venu dans le quartier chinois. « J'aime pas trop venir ici. Tu sais jamais sur qui tu vas tomber, mais il y a toujours de la dope quand t'es dans la marde. » Un homme sans t-shirt surgit en trombe d'une ruelle, les muscles tendus par le vol qui vient d'être commis contre lui. Je prends conscience qu'errer dans ce quadrilatère finit par attirer l'attention. Deux vendeurs marchent aux côtés d'une femme en mini-jupe, ses patins à roulettes alignés cliquetant sur le pavé.
« Yo, yo, we see ya, bro, we see ya »,
lance l'un d'eux, me pointant d'une main simulant un pistolet qui tire. 16 heures. Maca distribue des dépliants aux passants. Elle fait partie du comité jeunesse du quartier chinois et défend une approche moins policière et plus solidaire de la sécurité urbaine. Nous voulons sensibiliser la communauté à l'existence d'alternatives à la police. Les autorités admettent elles-mêmes qu'elles ne peuvent pas résoudre le fléau des drogues ni arrêter tout le monde. L'approche devrait être plus systémique, avec un meilleur suivi psychosocial et des programmes de logement social, explique-t-elle. Le comité milite également pour le définancement des forces de l'ordre et la décriminalisation des drogues, deux approches avant-gardistes face à un problème pour lequel aucune mairie du pays ne semble avoir de solution. Elle souligne à juste titre qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'un problème de sécurité généralisé, affectant aussi bien les résidents que les consommateurs. Maca, qui fréquente le Chinatown depuis son enfance, déplore la multiplication des chaînes de restaurants et des comptoirs à bubble tea. Elle a vu l'évolution du quartier, sa commercialisation touristique et la perte d'un sentiment d'appartenance qui n'est peut-être pas étrangère à son déclin. 17 heures. Le 90 de la rue de la Gauchetière Est, autrefois un refuge pour autochtones urbains, est maintenant un immeuble abandonné appartenant au CIUS Centre-Sud. Contaminé et à vendre depuis plusieurs années, son terrain derrière les clôtures tombées est un autre lieu de transaction important. J'y compte 6 carcasses de vélos échouées, habituellement échangées contre quelques pofs. Les deux vendeurs et la patineuse sont là. Je préfère ne pas pousser ma loque. 19 heures. Ali gère un stationnement sur la rue Saint-Dominique. Avant, on finissait à 1 heure du matin. Maintenant, on est là toute la nuit pour éviter les vols dans les voitures. Malgré tout, la vie bat son plein dans ce quartier. La file d'attente devant les nouilles de Lanzhou est aussi longue qu'à l'habitude et la rue piétonne est bondée de gourmands. Cependant, dans les espaces publics, rares sont ceux qui restent assis longtemps, rendus inconfortables par les demandes incessantes de mendicité. 20 heures. Soudain, au cœur même du quartier, une bagarre éclate entre deux hommes. Les coups fusent. Le plus âgé, pris de panique après avoir reçu une violente droite, se réfugie dans une boutique de bubble tea en forçant une porte réservée aux employés. Les clients, horrifiés, s'enfuient en criant par la porte principale. L'adversaire prend la fuite. Le vaincu finit par ressortir, les poings toujours levés. Il ramasse sa pipe cassée au sol et quitte les lieux. Le commis appelle la police. Il est 20h18. Une famille américaine, toute de Lacoste vêtue, y revient après une légère frayeur. La police arrivera à 20h29. Des gouttes de sang parsèment le sol du commerce. Les deux employés, encore secoués, se confient. L'été, c'est presque à chaque shift qu'il arrive quelque chose. Tous les commerçants te le diront. On se fait sans cesse voler notre pourboire. Les pugilistes seront rapidement appréhendés par la police. 21 heures. Outre la population marginalisée, seuls les livreurs à vélo et les derniers touristes déambulent encore dans les rues. Quelques mouettes se joignent à l'équipe municipale d'entretien. On ramassait beaucoup plus de déchets avant. Il y avait tellement plus de monde dans le passé, mentionne l'un d'eux. On les connaît presque tous, dit-il en pointant deux silhouettes s'enfoncer dans la ruelle Brady. Ils ne sont pas méchants, ils ont juste besoin d'aide. Ce qui frappe surtout, c'est leur nombre. Une femme hurle à la nuit. « J'ai postulé au Super C, mais à cause de mon casier, ils m'ont refusé. T'as vu mes bras? Je pourrais travailler. Comment voulez-vous que je réalise mes rêves? » Ces questions demeurent sans réponse. 22 heures. Les pompiers sont dépêchés pour réveiller un couple inconscient devant la maison Wings, tandis que les sirènes policières s'illuminent une rue plus loin. Je m'apprête à quitter, décoiffé par l'ampleur de la détresse témoignée. Mike, un cuisinier en tablier, est adossé à un mur de briques. Il observe la scène en tirant sur sa cigarette et me confie avec un fort accent sino-québécois. Pas étonnant qu'on ne voit plus personne à cette heure-ci. La ville est rendue toute foquée. C'était « Les rêves brisés du quartier chinois », un texte de Jean Bourbeau, paru le 9 juin 2024 dans Urbania.